Merci Julien, bonjour à toutes et à tous. Alors, oui, j'ai demandé à Julien de me faire signe à peu près la moitié de mon intervention pour voir si je serai en retard ou pas. J'ai 45 diapositives à peu près, donc vous voyez, ça fait en moyenne une par minute. Allez, je vais pas faire de préambule au moins. Ah ben s'il y en a un. Pas de chance. Premièrement, c'est que c'est un point de vue situé, ne serait-ce que parce que, en fait, il n'y a évidemment aucune volonté d'une quelconque exhaustivité de ma part. Vous verrez qu'il y a un certain nombre d'éléments dans ma présentation qui viennent alimenter ma réflexion, mais qui sont d'origine très variée. Que je revendique aussi le fait que toute production de connaissances est dépendante du contexte, y compris d'ailleurs du contexte national encore aujourd'hui, pour plein de raisons que je ne développerai pas, ce n'est pas mon propos. Et également parce que l'une de mes activités principales, c'est de penser ce que c'est que la critique. Ça a commencé dans le cadre d'un séminaire qu'on a organisé à partir de 2010. Dans le premier cycle de séminaire 2010-2012, si mes souvenirs sont bons, François avait déjà participé d'ailleurs. Et puis, en fait, ce séminaire-là a pris différentes formes, mais s'est développé donc depuis maintenant, bientôt une dizaine d'années. Par rapport à ça, je ne reprendrai pas les citations que propose Fabien Grandjean, mais disons que ma préoccupation est tout à fait celle de Fabien, en disant que la démarche ici qui m'anime, c'est plutôt de rassembler, plutôt que ce qui sépare. Et de l'autre côté, je m'intéresse à qu'est-ce que c'est que la communication. Et j'ai essayé, en fait, de faire un travail, c'était tout l'objectif, en fait, et l'enjeu du séminaire, en fait, de faire un travail d'articulation. Je vais commencer en disant les raisons pour lesquelles je pense qu'il y a des relations complexes entre critique et communication, et puis ensuite, quelques pistes pour le développement des études critiques en communication. Premier élément de réflexion, je dirais, c'est tout simplement que la communication elle-même, étymologiquement, le mot communication peut renvoyer, je ne dis pas que le mot communication renvoie forcément, mais que le mot communication lui-même, de par son étymologie, peut renvoyer vers une vision qui est aconflictuelle et idéaliste du monde. Ça pourrait peut-être renvoyer, par exemple, aux travaux que François a mentionnés, par exemple, communication familiale, communication interpersonnelle. Bien que je pense que d'un autre côté, il y a des travaux, je le vois à l'Université d'Ottawa, par exemple, en communication interpersonnelle, je sais qu'il y a des collègues qui travaillent en communication interpersonnelle d'un point de vue critique. Je dirais qu'en fait, il va y avoir un certain nombre de travaux en communication, de par le fait que la communication renvoie à l'idée de partager, de mettre en commun, il va y avoir l'idée, en fait, que la communication sert avant tout, finalement, à s'adapter à la société telle qu'elle existe. Et on rejoint, je pense, ce que Horkheimer appelait la théorie traditionnelle par opposition donc à la théorie critique. En parlant de théorie traditionnelle, Horkheimer disait que c'est le cas où le savant et la science sont intégrés à l'appareil social, les résultats positifs du travail scientifique sont un facteur d'autoconservation et de reproduction permanente de l'ordre établi. Et je pense en effet qu'un certain nombre de travaux en communication relèvent tout à fait de cet ordre-là. Et Horkheimer, donc, dans plusieurs textes, mais notamment dans un ouvrage théorie traditionnelle, théorie critique, ajoute que pour lui, en fait, la théorie critique repose sur l'idée qu'il faut prendre la société elle-même comme objet, et que cette attitude, donc, vise à considérer que s'il y a des, entre guillemets, des défauts dans la société, eh bien, ceux-ci sont liés de façon nécessaire à toute l'organisation de l'édifice social. Cette attitude, donc, que nous appellerons critique, elle est, pour lui, caractérisée donc par une méfiance totale à l'égard des normes de conduite que la vie sociale telle qu'elle est organisée fournit à l'individu. On pourrait dire de ce point de vue-là que, évidemment, les dimensions critiques et holistes, puisqu'il s'agit de porter un regard sur la société dans sa totalité, dimensions critiques holistes, macro, apparaissent évidemment étroitement liées. Je reprends de la théorie critique de l'école de Francfort, en fait, ces différentes caractéristiques telles qu'elles sont élaborées dans un texte très intéressant de Durand-Gasselin, enfin d'un ouvrage de Durand-Gasselin sur l'école de Francfort, et je vais revenir sur l'ensemble de ces éléments-là, la dimension post-métaphysique, la dimension interdisciplinaire, dimension réflexive, relationnelle et intéressée, et je vais regarder à chaque élément, en fait, je vais interroger l'ensemble de ces éléments, de ces caractéristiques d'une pensée critique par rapport aux études en communication. Ce qui fait qu'en plus du premier point que j'ai abordé tout à l'heure, j'en ai 5 autres. Réflexion 2, mais vous savez, je vais aller passer très vite sur certains éléments, en considérant que tout le monde est familier par ailleurs. Tout d'abord, je pense que la première caractéristique, nous dit Durand-Gasselin, et donc je la reprends à mon compte, mais ce sont les caractéristiques d'une pensée critique que je reprends à mon compte. Durand-Gasselin nous dit qu'en fait, toute pensée critique, déjà tout d'abord, est post-métaphysique. Autrement dit, en fait, tout système théorique est forcément lié aux conditions historiques et passagères dans lesquelles nous vivons. J'allais dire, tout est une question de contexte. Et Horkheimer lui-même nous écrit que son diagnostic sur l'industrie culturelle, eh bien, il est fort possible qu'un jour ou l'autre, eh bien, son diagnostic ne soit plus pertinent. Parce que, en fait, tout diagnostic est forcément lié, en fait, au contexte dans lequel il se développe. Je pense justement qu'on doit tirer de ceci l'importance de l'intégration de l'histoire et de la longue durée dans l'analyse. Le premier élément qu'on peut tirer, c'est que tout travail d'ordre critique doit être resitué en fait dans son contexte socio-historique, géographique, etc. Sauf que, et puis là je rejoins une piste que Oumar avait abordée dans son texte de 2010, c'est qu'à partir des années 80, puisqu'on est dans ce fameux virage des années 80, je reviens aussi au texte de Serge Proulx, dans les années 80, on constate qu'il va y avoir un nombre, mais ce n'est pas une caractéristique propre des études en communication, c'est quelque chose qui est largement développé dans les études en sociale et humaine. En fait, on va se retrouver avec l'accent mis sur la quotidienneté, sur le sujet face aux structures et aux systèmes, sur la qualité face à la quantité. On va s'intéresser au vécu face à l'institué. C'est Georges Balandier qui écrit ceci. Et Balandier d'ailleurs dit « Cette tendance forte affecte bien plus que le seul champ des sciences sociales, mais elle l'affecte principalement. » Lui, il parle plutôt de la sociologie, donc de la sociologie du quotidien. En fait, c'est la montée en puissance à partir des années 80, la montée en puissance du banal par rapport, en fait, on pourrait dire, entre guillemets, aux différentes structures de domination. Je pense que là, mon hypothèse, c'est que cette tendance-là a été encore plus forte en communication. Cette tendance à oublier les études à long terme, cette tendance à oublier donc le long terme, à oublier l'histoire, a été d'autant plus importante dans le cadre des études en communication, parce que, je crois que François y a fait brièvement allusion, parce qu'on est dans une discipline, entre guillemets, où chaque nouveau média a tendance à chasser le précédent. Autrement dit, on va travailler pendant quelques années sur les blogs, et puis ensuite, on va considérer que les blogs, entre guillemets, c'est ringard, il faut travailler sur les réseaux sociaux numériques, et puis en fait, et chaque technologie en chasse une autre. Et en plus, généralement, on considère le plus souvent que chaque moyen de communication, pour me parler comme ministre, chaque moyen de communication ne gagne pas à être abordé à partir des enseignements qui ont été tirés des analyses des précédents. Donc, que ce sont des vieux textes et qu'il faut en permanence aussi renouveler les bibliographies. Alors, c'est une tendance d'un côté, attention, c'est une tendance qui est bienvenue, parce que ça remet en cause un certain nombre de structures dominantes, et puis ça permet d'envisager des possibles à partir des expérimentations individuelles et collectives. Et justement, cette tension entre les structures dominantes de domination et les possibles, le futur étant déjà inscrit dans le présent, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je trouve que c'est une définition justement d'un travail critique. Mais, l'un des problèmes donc qui se pose par ailleurs, nous dit très bien, alors je vais passer directement à la fois pour les sciences humaines et sociales et plus spécifiquement dans le cadre des études en communication, ce que nous dit Matelard, c'est que ça pose un problème. Alors il explique notamment que l'oubli pour lui de l'histoire, c'est lié aussi aux théories et aux modèles qui ont été dominants, théorie mathématique de la communication, cybernétique, systémique, interactionnisme, structuraliste. Mais il ajoute que ce déni d'histoire, donc dans les études en communication, ce déni d'histoire se trouve renforcé par l'idéologie contemporaine de la communication et du projet amnésique de la globalisation capitaliste, lesquels valorisent la nouveauté, l'innovation et l'éphémère. On retrouve évidemment ici toujours le fait de travailler sur l'événement, sur le présent, sur le dernier moyen de communication développé, et par là entendre couper les phénomènes et processus sociaux de leur histoire pour ainsi les rendre naturels, c'est-à-dire dans l'ordre des choses. Et je pense que c'est une question qui se pose à la fois dans les sciences humaines et sociales, mais plus spécifiquement dans le cadre des études en communication, ne serait-ce que parce que les études en communication sont largement liées aux médias, aux moyens de communication qui sont développés. Et d'ailleurs, elles tirent en partie leur légitimité justement du fait de la pertinence dans notre société dite de l'information, de la communication, de l'analyse de ces moyens de communication. Réflexion 3A. Bon, ça va rejoindre ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure. Je vais quand même tout de suite prendre un tout petit peu mes distances avec Jean-Pierre, parce que, avant de lui donner raison, parce que tout ça est bien compliqué, c'est-à-dire que la communication doit, à mon avis, se revendiquer plus ou moins comme une discipline, et donc parce qu'une discipline doit avoir un propre, et parce que, en fait, il faut marquer le territoire, j'allais dire. Il faut marquer le territoire. Mais d'un autre côté, comme vous allez le constater, j'ai des interrogations parce que j'aurais tendance à reprendre la pensée d'Horkheimer, selon lequel, en fait, toute pensée critique est avant tout, et c'est là que je donne raison à Jean-Pierre, que toute pensée critique est avant tout interdisciplinaire. C'est très compliqué, cette histoire-là. Hein. Je lisais hier soir un texte d'une auteure qui dit, par exemple, que ses écrits se situent au carrefour des sciences de l'information et de la communication et des cultural studies. Regardez, si vous regardez les deux champs de recherche que je connais mieux, le PC et les cultural studies, en fait, vous remarquerez déjà que il y a un certain nombre de disciplines qui ont déjà été mobilisées. Alors, si on fait des cultural studies en communication, on est dans quoi exactement ? Est-ce qu'on, si on est déjà dans une interdiscipline en ce qui concerne les cultural studies, où est-ce qu'on est en communication quand on travaille sur les cultural studies en communication ? Je ne vais pas développer cette question, mais à mon avis, c'est un questionnement qui peut être rapidement abyssal. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que, en fait, les études en communication ont besoin de se déterminer un propre, d'avoir un propre, en fait, de se constituer comme discipline, comme dit Morin, hein, Edgar Morin, vous avez donc une division, une spécialisation du travail, une délimitation des frontières, une délimitation du langage, des techniques qu'elle est amenée à élaborer et utiliser, et éventuellement des théories qui lui sont propres. Là, en effet, ça rejoint la discussion de tout à l'heure. Je dis que c'est sûr que pour les études en communication, si c'est un projet, il est toujours en construction. Mais je pense que ça prend forcément très longtemps, et que notamment de ce point de vue-là, les diplômés des doctorats en communication, au Québec et bien au-delà, ont évidemment un rôle central à jouer. Je vous renverrai sur, justement, hein, je pense que c'est le texte de Craig, hein, que François mentionnait tout à l'heure, en fait. Ce qui m'intéresse ici, c'est de constater que, et un texte passionnant de Gregory Shepherd. Gregory Shepherd, en fait, explique pourquoi la communication n'est pas ne s'impose pas comme discipline centrale en sciences humaines et sociales, parce qu'en fait, la communication n'est pas constitutive pendant des siècles, n'est pas considérée comme étant constitutive de l'être humain, comme étant une des dimensions centrales, on pourrait dire, d'un point de vue ontologique, hein, de l'être humain. Mais la question que je me pose ici, c'est que la formation même de disciplines institutionnelles, dont les études en communication entre autres, est-ce que ça ne serait pas de facto, en revanche, un obstacle à la production de connaissances d'ordre théorique ? Réflexion 4, je vais revenir à ça, hein, tout à l'heure d'ailleurs aussi. Réflexion 4, ce que nous dit Durand-Gasselin, c'est que toute pensée critique vise l'émancipation, en fait, et met l'accent à la fois sur les déterminations qui font que le monde est ce qu'il est, je ne parle pas de déterminisme, hein, je parle de détermination, et sur l'analyse des possibles qui sont susceptibles de transformer. Horkheimer employait le mot possible dans son texte, le mot possible au singulier. En revanche, je pense qu'il importe de l'envisager au pluriel pour refuser toute dimension théologique par rapport à ce qui peut advenir. Néanmoins, en fait, je m'inspire d'Horkheimer quand il dit « Il importe de faire la critique du monde, mais aussi de s'intéresser au possible, considéré comme immanent, celui-ci étant porté par des sujets sociaux dans des situations sociales historiquement déterminées. » Bon, on retrouve exactement dans l'ouvrage bilan des travaux critiques de Renaud et Saint-Omer en 2003, ils reprennent tout à fait à leur compte la pensée d'Horkheimer. Et puis, je trouve que c'est assez bien illustré par une collègue française, une philosophe, Aude Guéguen, qui dit « Il est donc impensable de penser la critique sans envisager le possible, en vertu et à partir duquel il soit permis de contester, ou au moins de questionner ce qui est, selon la perspective de sa transformation. Le possible constitue en ce sens une catégorie fondamentale de la critique. » Alors, ça renvoie à la notion d'émancipation. Je me suis replongé, d'ailleurs, dans des lectures sur la notion d'émancipation. C'est une notion qui est difficile à saisir, la notion d'émancipation, parce que, comme le dit bien Jean-Guy Lacroix, en fait, elle renvoie l'émancipation, nous dit-il, est multiple, hein, qu'elle concerne à la fois des groupes, des individus, les femmes, les autochtones, l'être humain, l'être en général, nous dit-il. Elle procure de l'autonomie, de la liberté, de l'égalité. Elle passe nécessairement également par le respect de l'autre, des autres, de l'altérité élargie. Elle participe finalement, nous dit Lacroix, à des états de civilisation, à l'action de civiliser. Et Durand-Gasselin, donc dans son ouvrage sur l'école de Francfort, Durand-Gasselin revient sur le fait que l'émancipation a pris un nombre de virages, de visages considérables qui changent aussi en fonction de la période historique. Là, il revient à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Je ne suis pas parano. Donc. En fait, l'émancipation, et je me suis plongé dans un bouquin de 2013 que j'avais acheté quand j'étais en sabbatique en 2015, mais que je n'avais pas lu à l'époque. Alors ça m'a permis de me replonger un bouquin très pertinent sur cette question de l'émancipation, en montrant justement en quoi c'est une notion complexe mais riche. Je vais la citer. Si elle retrouve aujourd'hui une actualité, la signification même de l'émancipation n'en demeure pas moins essentiellement contestée. On associe le plus souvent l'émancipation à une forme de libération, de déprise des rapports de domination, ou bien à l'affirmation et au renforcement d'une puissance d'agir collective ou individuelle, ou encore dans une version légaliste, à la conquête de nouveaux droits. La signification d'émancipation ne peut pas être déconnectée des différents contextes historiques et sociaux dans lesquels les revendications d'émancipation sont formulées. L'émancipation pour un manifestant tunisien pourra éventuellement avoir la même finalité politique générale que celle d'un travailleur en grève de l'usine Renault, mais elle n'aura pas la même signification pratique, stratégique et historique particulière. Cela ne signifie pas que la convergence politique des luttes soit impossible, ni que certains outils théoriques et politiques communs ne puissent pas être pertinents dans des contextes différents. Mais force est de reconnaître que la notion d'émancipation prend sens dans la logique des résistances historiquement situées et peut donner lieu à des désaccords théoriques, sociaux et politiques. Ça rejoint tout à fait, en fait, ce que je disais tout à l'heure de la nécessité de parler du possible au pluriel et de refuser toute vision théologique. Or, justement, essayons de voir cette question d'émancipation, cette notion d'émancipation, essayons de voir comment elle peut être saisie du point de vue des études en communication. Eh bien, en fait, on se rend compte... Alors, je vais reprendre le texte de Shepherd, parce que la proposition de Shepherd, en fait... c'est de dire que c'est le communicationnel qui est constitutif du social. Autrement dit, en fait, on pourrait dire les relations communicationnelles sont premières par rapport aux relations sociales. C'est une façon de légitimer d'ailleurs la communication par rapport à la sociologie. Mais alors, ça peut avoir, nous dit Lucas Dufour, des conséquences considérables, parce qu'en fait, se dit-il, et Dufour, sa réponse, c'est de dire qu'en effet, il s'interroge en disant, est-ce que finalement, dans le cadre des études en communication, les principaux phénomènes qui instituent la vie sociale ne vont pas se nommer culture, savoir, récit ou discours? Et alors, nous poursuit Dufour, l'ordre des phénomènes tend à s'inverser. En fait, il faudrait préciser, l'ordre des phénomènes tend à s'inverser par rapport à une vision marxiste traditionnelle. L'ordre des phénomènes tend à s'inverser, au lieu de prendre comme point de départ le fait que les hommes s'engendrent dans et par le travail social, ce sont les manières dont les hommes se pensent eux-mêmes, conçoivent leurs rapports et prennent conscience de leurs conflits qui acquièrent statut de base réelle de l'existence sociale. On pourrait dire finalement, dans les relations entre infrastructure et superstructure, finalement l'infrastructure n'est, dans une vision marxiste traditionnelle, l'infrastructure en fait est dominante par rapport à la superstructure, tandis que là finalement, dans le cadre des études en communication, ce serait la superstructure qui serait devenue complètement autonome, à travers le poids qui est accordé à la question des valeurs, des discours, des représentations, etc. etc. Je reviens à l'analyse que nous avions faite avec Renaud, donc dans le Canadian Journal of Communication. On avait donc étudié 178 textes et on avait constaté qu'en fait, eh bien, la plupart de ces textes se revendiquaient, d'une façon ou d'une autre, se revendiquaient de la critique. En revanche, qu'une majorité du corpus était marquée justement par une critique qui était plutôt d'ordre culturel, que nous avions qualifié d'ordre culturel ou qui se revendiquait d'ordre culturel, en mettant l'accent sur les questions de genre, de minorité ethnique et sexuelle. L'analyse en fait d'ordre socio-économique était très faible, à part je crois un numéro spécial qui avait été, alors j'en suis pas complètement sûr, mais co-dirigé peut-être par Vincent Moscou, si mes souvenirs sont bons. Et qu'on avait tendance à avoir finalement une perspective critique développée dans le Canadian Journal of Communication qui visait plutôt une certaine autonomie du culturel par rapport au socio-économique. Si, alors là, c'est très intuitif, si les éléments d'ordre socio-économique étaient mentionnés, en fait, très souvent, c'était dans les conclusions des textes. Et là, je me demande, mais c'est intuitif, hein, là, je me demande dans quelle mesure, pour l'avoir moi-même vécu, il n'y a pas un travail éditorial, justement, du ou de la rédacteur, rédactrice en chef de la revue. Donc, en fait, nous dit Dufour, l'émancipation, elle est présente dans certains travaux en communication. Cela ne signifie pas pour autant que la question de la transformation et de l'émancipation sociale disparaissent, nous dit Dufour. Mais, ajoute-t-il, elle est associée aux interactions des points de vue, aux échanges entre modèles discursifs, aux rapports de sens. L'important désormais, nous dit Dufour, est de transformer les modes de pensée et de s'éduquer à de nouvelles manières de communiquer. Et sa conclusion, c'est « En postulant que c'est d'une manière générale l'intersubjectif ou le communicationnel qui, en modulant les aptitudes des individus à agir sur le réel, conduit le changement historique, ou en admettant que ce sont l'opinion, les phénomènes symboliques, les formes imaginaires, les processus discursifs, les progrès de la conscience collective, etc., qui déterminent ou construisent les processus sociaux, cette recherche, dirait Marx, saisit le monde la tête en bas. En un mot, elle est idéaliste. » Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir en quoi Dufour m'inspire pour réfléchir sur le fait que les études en communication auraient tendance, les études en communication critique, auraient tendance donc à aborder la question de l'émancipation d'un point de vue et pas d'un autre. Réflexion 5. La recherche critique est réflexive, nous dit Durand-Gasselin. Alors, je pense en effet que toute recherche critique doit être avant tout autocritique, que c'est quelque chose qui est constitutif. Alors, c'est pour ça que je reviens et je repasse là d'une vision inspirée de Marx à une vision inspirée de Kant. Pour une raison très simple, je pense, qui est bien résumée par Jean-William Lapierre, c'est qu'en fait, la pensée critique, si on veut éviter les excès polémiques et l'abus dogmatique et de ne pas verser dans le dogme, justement, doit reposer sur cette critique. Bon, j'ai jamais considéré que j'avais un maître à penser, mais j'aime bien Castoriadis par ailleurs, et je lisais récemment justement Castoriadis qui dit quelque chose qui me semble tout à fait vrai et qu'on a tendance beaucoup à oublier, c'est le fait que de toute façon, la seule chose dont on est à peu près sûr en sciences humaines et sociales, voire en sciences en général, c'est de l'état de notre ignorance. Évidemment, tout ceci a des conséquences considérables par rapport à la façon de concevoir la science dans nos sociétés, y compris à travers le travail autocritique qu'on est amené à mener, parce que, et aussi se positionner par rapport au possible, parce que la question des possibles, évidemment, renvoie forcément à analyser ce qui se passe dans les pratiques sociales réelles. Je pense que ça renvoie à ce qu'on appelle, en fait, une rupture épistémologique molle. Et qu'il faut aller voir, de ce point de vue-là, des travaux à la fois d'un collègue en criminologie à l'Université de Montréal, Pires, qui s'inspire de Boaventa de Sousa Santos, un auteur portugais, et donc pour repenser l'articulation entre le savoir scientifique d'un côté et puis le savoir, on pourrait dire, le savoir commun, entre guillemets, mais j'aime pas ce mot. Alors, je n'ai pas le temps de revenir sur la neutralité axiologique, mais je pense que vous aurez compris que c'est pas trop mon truc. Bon, j'avais une question pour François tout à l'heure, mais je vais en profiter par rapport à ça. Évidemment, la question de la critique, à chaque fois qu'on aborde le mot critique en communication ou dans les autres sciences sociales humaines, ça renverrait à quel sens est-ce qu'on attribue au mot critique. Tout à l'heure, François, par exemple, a distingué la critique d'un point de vue politique, de la critique, je pense, d'un point de vue épistémologique, sans doute. Comme je vous dis, moi, je propose plutôt d'essayer d'aborder la critique de façon combinée, en disant qu'on ne peut pas faire de critique qui mène, par exemple, à une critique d'ordre politique sans avoir une autocritique permanente, justement, pour éviter tout abus dogmatique. Je pense aussi, j'en profite par ailleurs, pour mentionner que et François avait fait un texte il y a quelques années, je pense qu'il a été publié dans la revue du MOS sur les cultural studies, et tu disais que, en fait, l'un des dynamismes justement des cultural studies, c'était la capacité au sein des cultural studies de s'interroger en permanence. Et moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est plutôt un signe que le fait même en science en général, dans une discipline et au-delà des disciplines, le fait même de s'interroger sur ce que l'on produit est plutôt un signe de bonne santé, en fait. Je pense que la sclérose commence plutôt, j'aurais tendance à penser, à partir du moment où on s'interroge plus du tout. Réflexion 6, je vais y passer très vite. Oh là là. Réflexion 6, alors je vais y passer très vite. C'est l'idée que la recherche critique est relationnelle. Nous dit Durand-Gasnin, c'est qu'en fait, les travaux critiques ont aussi pour but, non pas de travailler en opposition par rapport à des travaux qui seraient acritiques, mais qu'il y a tout un tas de travaux qui n'ont pas de dimension critique, mais qui peuvent être réinterprétés, rediscutés, réélaborés dans le cadre d'un travail d'ordre critique. Et par ailleurs, l'idée qu'en fait, la critique, un travail d'ordre critique ne vise pas à séparer, par exemple, des travaux qui porteraient sur l'explication, des travaux qui porteraient sur la compréhension, des travaux qui porteraient sur le changement et des travaux qui porteraient sur la production alternative. L'ensemble de ces dimensions-là peuvent être mobilisées par des travaux à orientation critique. Des pistes de réflexion pour conclure. Bon. Alors, oui, je précise que je l'ai déjà dit récemment. Bon, c'est pas facile de penser l'articulation d'un point de vue conceptuel, théorique, d'avoir une réflexion abstraite. Bon, c'est pas facile. Et puis, c'est vrai que ma présentation a un certain niveau d'abstraction. Mais en revanche, je pense que c'est encore beaucoup plus dur de passer, d'essayer d'appliquer, par exemple, ce que je propose, d'appliquer à un terrain précis. J'en parlerai pas, c'est pas mon objet, mais en fait, par exemple, ma première piste de réflexion là, sur le fait de réarticuler les dimensions infrastructurelles et superstructurelles dans l'analyse, de réarticuler ensemble des travaux qui mettent l'accent sur les perspectives socio-économiques, sociopolitiques et culturelles, c'est ce que j'essaye de faire, mais j'allais dire plus ou moins, parce que plus ou moins le temps, par ailleurs, en travaillant à partir d'une tentative, ça fait quelques années, mais j'essaie de travailler ça sur le terrain, en articulant, en fait, l'économie politique de la communication et les cultural studies. Je n'ai pas le temps de développer, mais il y a eu un nombre considérable d'appels au fil du temps sur éventuellement des rapprochements, mais on peut très bien avoir les meilleures volontés du monde. Ce qui est beaucoup plus complexe à faire, après, c'est de prendre un objet, d'essayer de décliner sous les deux angles d'approche et de recréer, justement, cette volonté de relier l'infrastructurel et le substructurel. je pense néanmoins que c'est quelque chose qui est tout à fait pertinent et tout à fait important. Les rapports entre infrastructure et superstructure, en fait, renverraient aussi évidemment aux questions de rapports de classe, de rapports de genre et de race. Je n'ai pas le temps non plus de développer. J'aime beaucoup cette position d'une auteure féministe qui s'appelle Jules Falquet, qui propose de régler cette querelle. Ça fait partie en fait des nombreuses querelles qui nous fatiguent en permanence, qui en fait relèvent des oppositions de chapelle et compagnie. En fait, pour elle, j'aime beaucoup cette citation, je n'ai pas le temps d'y revenir en détail. Voilà, j'allais dire, les rapports sociaux sont toujours déjà imbriqués, qu'on le veuille ou non. Les rapports de race, de classe et de genre. Pas le temps de développer, mais je pense que c'est une piste intéressante. Je pense qu'il faut repenser aussi l'articulation dialectique entre théorie et pratique. Ça renvoie à la question, évidemment, que j'ai posée tout à l'heure sur le fait que on ne peut pas penser conceptuellement sans, évidemment, s'intéresser aux pratiques sociales concrètes. Il y a un auteur québécois que je trouve super intéressant, qui est Marcel Rioux. Si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument le lire un jour ou l'autre. Hein. Marcel Rioux nous dit bien, la vérité n'est pas révélée par la théorie et ensuite appliquée au réel. C'est le réel, au contraire, qui nourrit la théorie. Ce qui oblige l'analyse à déceler dans la réalité les mouvements, conduites et groupes qui sont porteurs de nouveautés et d'émancipation. Je reviens toujours à la question d'un côté des structures qui dominent et d'autre côté des possibles qui conduisent à une éventuelle émancipation. Mais d'un autre côté, je n'ai pas non plus le temps de développer, mais on peut aussi considérer d'un point de vue dialectique que des questions comme aliénation et émancipation, évidemment, sont étroitement liées les unes avec les autres. Les études en communication, ici, à mon avis, ont un intérêt. On l'a abordé tout à l'heure, justement, les études en communication ont un intérêt, justement parce que, et on le voit dans le doctorat qu'on est en train de développer, parce qu'on ne pense pas seulement à la recherche dite fondamentale, j'aime pas du tout ce terme-là, mais enfin bref, on ne pense pas uniquement à la recherche dite fondamentale, mais on pense aussi à la recherche-action, la recherche-intervention et la recherche-création. Et le fait de développer des études en recherche-action, intervention et recherche-création doivent pouvoir être effectuées dans un cadre justement critique qui pose en permanence la question de l'émancipation et puis des obstacles à l'émancipation. Le problème devant lequel on est confronté, je pense au jour d'aujourd'hui, et ce qui n'était évidemment pas le cas dans les années 60 et 70, comme le dit Jean-Marie Brom, là où on est confronté, c'est où est-ce que se situent les mouvements sociaux militants, les alternatives politiques crédibles, les interventions contestataires effectives sur le terrain. Ce qui amène Michel à se poser une question, où se trouve donc aujourd'hui le potentiel de politique critique. Ouais, 0 minute. J'ai presque fini. Je vais terminer là-dessus d'ailleurs. Alors, peut-être qu'une des pistes, vous voyez, j'aurais pas forcément eu exactement le même point de vue il y a quelques années, mais en essayant de remettre tout ça ensemble, eh bien je pense qu'il faut profiter de l'éclectisme des études en communication. On a été un certain nombre, il y a notamment Anouk qui est parti, et puis Renaud, Ouma aussi y avait travaillé. Donc c'était une recherche qui avait été menée dans le cadre, je pense, du défunt programme FODAR 2014-2015. Et donc, il y avait eu un gros travail, mais qui n'a jamais été publié. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a marqué Carbas-Bélanger, mais que le travail, justement, n'étant pas publié, en fait, il doit être encore seulement, Renaud me confirmera ou pourra infirmer, sur quelques ordinateurs. Il y avait eu un travail qui avait été fait, notamment, à partir de l'analyse des thèses et des mémoires de communication à l'UQAM et à l'UQTR. Et un travail qui avait été fait à partir des plans de cours des professeurs en communication. C'est assez fabuleux les résultats qui ont été obtenus, hein, notamment par exemple autour des chercheurs et chercheuses qui étaient mentionnés, etc. Mais alors l'un des enseignements, l'enseignement qui m'a intéressé ici, hein, c'est l'idée qu'on construit des grilles d'analyse plutôt que de s'inscrire systématiquement dans une approche. Autrement dit, la tendance dans les études en communication n'est pas de partir, j'allais dire, d'un point de vue théorique et de développer une thèse à partir d'un point de vue théorique que l'on a décidé de choisir, mais on a plutôt tendance à partir de la problématisation d'un objet de recherche qui, lui, va ensuite faire appel à un certain nombre d'éclairages d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue cadre, d'un point de vue théorique. D'ailleurs, ce qui fait que la notion même de le nom même de cadre théorique amènerait éventuellement à interroger sa pertinence, puisque on est plutôt dans un sens, justement, où on va de la problématique vers la théorie et non pas d'un ancrage théorique fort vers un objet à développer. Et je pense, de ce point de vue-là, en fait, que nous aurions tout à fait intérêt à profiter, justement, de cette tendance à un certain éclectisme pour favoriser la dynamique, la diversité des dynamiques de recherche, des objets, des questions dans des perspectives et des méthodes, tout ça s'inscrivant et vit dans un cadre critique, y compris donc autocritique, comme j'ai mentionné. Voilà, je finis. Je crois. Ah oui. Bon. Oui, je retourne à Horkheimer un instant. Oui, parce que. Voilà, c'était le projet d'Horkheimer, on va dire. Oui, petite parenthèse quand même, parce que l'école de Francfort, c'est pas un ensemble unique, hein, loin de là. Bon. Horkheimer est certainement le penseur de l'école de Francfort, que je connais, soyons modestes, parce qu'il y en a bien d'autres que je ne connais pas, dont je suis assez proche. Mais j'allais dire, j'aurais tendance, je pourrais, je pense, écrire des pages et des pages à partir de là, interroger tout ce qui se passe dans l'actualité à partir d'écrits Horkheimer. Et je ne suis pas sûr du tout, en fait, je suis pas sûr du tout que le projet d'Horkheimer soit. Est-ce qu'il est d'actualité ? J'aimerais le penser, mais j'en suis pas persuadé, en fait. Voilà. C'est pour ça que cette phrase-là, le retour à Horkheimer, est plutôt devrait se terminer à partir de cette citation-là que je vous laisse lire, avec un grand point d'interrogation, on va dire. Voilà, je vous remercie et j'espère que j'ai pas trop dépassé Julien.
Parfait. Répondu à une des deux un peu en disant que tu peux pas répondre, mais je vais quand même la poser. En fait, je voulais revenir sur une partie où tu es allé un peu vite sur la citation de Jules Falquier. Je trouve ça très intéressant, en fait, d'essayer de trouver des perspectives qui repense la recherche comme relevant à la fois des perspectives socio-économiques, sociopolitiques et socioculturelles. Mais je vois la même problématique de comment ça se concrétise et comment ça se concrétise donc spécifiquement par rapport aux études en communication qui justement sont très diversifiées en termes d'objets de recherche. Puis je voulais savoir donc selon toi, est-ce qu'il y a des manières de le concrétiser et comment le fait d'apporter un tel regard, donc qui porte l'articulation entre les rapports de classe, genre et race, comment ça change en fait le paysage des études critiques en communication et en quoi cette proposition pourrait justement nourrir les perspectives critiques et comment ça apporte quelque chose de nouveau qui n'existe pas encore dans les perspectives critiques ou est-ce si c'est quelque chose qui a toujours existé mais qui n'a pas été nommé clairement. Puis deuxièmement, en fait, je voulais revenir sur ta deuxième piste de réflexion, l'articulation dialectique entre théorie et pratique. En fait, ça, c'est dans le texte de référence que tu avais dit de donner de Grandjean, il revenait souvent en fait sur les... La critique théorique n'est pas un moment qui doit se prolonger. C'est qu'un moment, elle doit se prolonger par une critique pratique. Donc, il revenait souvent sur le fait de faire la pratique et il relie finalement ça à l'utilité sociale. Puis, pour moi, l'utilité sociale, quand on le pense en termes d'émancipation, c'est forcément, ça devient une critique politique ou une action politique. Puis, j'étais justement étonnée que dans tes slides, et c'est aussi le cas finalement dans beaucoup d'études, on écarte en fait la question de politique parce qu'elle est comme, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on évite de parler de politique pour ne pas trop irriter non critique ou pour se faire pour légitimer, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui fait qu'on évite tout le temps cette discussion là sur sur l'utilité sociale et sur la notion politique. Puis, deuxièmement, je trouve aussi que le fait de revenir vers les mouvements sociaux, il faudrait peut-être aussi se poser la question de la recherche, qu'est-ce que les chercheurs peuvent faire pour revenir et pourquoi il y a en fait aussi peu de contestations en ce moment sur des thématiques reliées explicitement à la communication. Et en se posant ces questions, on pourrait peut-être repenser aussi notre relation au terrain avant de dire qu'on n'en a pas. Je ne sais pas. C'est plutôt une réflexion.
C'est un peu abyssal. Hein. Je pense tout à l'heure, on a abordé la question d'institutionnalisation. Je pense qu'une forte institutionnalisation tend à rendre la critique moins forte en revanche. Pour des tas de raisons. En fait, il n'y a pas de séparation jusqu'à, on va dire. Il faut lire un auteur qui s'appelle, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, Ramiz Kutchayan, Julien, c'est ça son nom, qui s'intéresse à la critique sur une longue période. Et je pense que, il n'est pas le seul du tout, Fabien Grandjean l'a aussi écrit, en fait, le dernier penseur qui est à la fois un penseur, on va dire, qui va être mobilisé dans le milieu universitaire, tout en étant évidemment fortement inscrit dans le politique, c'est Gramsci. Et la grande majorité des penseurs qui sont ensuite considérés comme étant critiques au XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est des penseurs qui sont avant tout des universitaires, qui développent des carrières d'universitaires et qui ont un ancrage plus ou moins développé dans le politique. De ce point de vue-là, alors il y a des exceptions. Il y a des gens, par exemple, François tout à l'heure nous a mentionné un certain nombre d'auteurs qui étaient impliqués dans les travaux autour du nouvel ordre mondial sur l'information et la communication au sein de l'UNESCO à la fin des années 70, au début des années 80. Donc je dirais peut-être pas que la coupure est aussi nette, mais d'un autre côté, le fait même, l'orientation des quartiers, des carrières, la dimension très individualiste des carrières, la tendance à avoir des égos quand même très très surdimensionnés dans notre profession. Enfin, il y a tout un tas d'éléments, je ne sais plus si je l'ai mentionné, la course aux subventions. Non. Je pense que tout ça joue un rôle. La façon même de fétichiser un peu l'évaluation par les pairs aussi. Je pense que tout ça contribue quelque part à la fameuse dictature, quand même pendant très longtemps, de la neutralité axiologique, dont en langue française, on n'est même pas très sûr qu'elle a été correctement traduite de l'allemand au français. En fait, tous ces éléments-là, et j'en oublie certainement beaucoup d'autres, font que nous avons bien changé d'époque. Et d'un autre côté, il se trouve aussi que le fait de dire qu'il faut ancrer la critique dans l'action sociale, et je pense en effet qu'il faut ancrer la critique dans l'observation, y compris dans la participation, d'où la pertinence, par exemple, de la recherche-action, de la recherche-intervention. Le fait d'ancrer donc ce travail de réflexion, d'ordre théorique dans les pratiques, c'est à la fois quelque chose qui est très nécessaire, mais d'un autre côté, bon, qui est très difficile, hein, qui est très très difficile. J'en veux pour illustration, pas pour preuve, mais j'en veux pour illustration le fait que des collègues en France avaient créé suite dans le cadre du mouvement altermondialiste en 2003, de la réunion à Porto Alegre, avait créé un observatoire français des médias avec un certain nombre de profs et de militants, et puis ça a complètement éclaté au bout de quelques années. Pas parce que les habitus des profs d'un côté et des militants de l'autre ne sont pas du tout les mêmes, en fait. Il y a eu un clash, alors que c'était pourtant des collègues qui étaient soi-disant critiques en économie politique de la communication qui étaient dans cet observatoire-là. Je vais revenir maintenant à ta première. En fait, il y aurait plein de choses qui seraient possibles de faire. Ce serait possible, par exemple, mais je n'ai pas lu de texte, mais j'espère qu'il y en a, hein, parce que d'un autre côté, comme je disais aussi tout à l'heure, la production scientifique maintenant est telle, y compris à travers à la fois la pression à publier, le nombre de revues en constante augmentation, etc. Donc on peut évidemment jamais avoir une vision, je pense, complète du champ, peut-être sauf si on fait... mais alors, c'est évidemment toujours biaisé comme toutes les recherches, hein, du big data, là, c'est peut-être intéressant. Non, mais c'est Sylvain, oui, c'est toi, Sylvain, que je disais. On en disait deux mots tout à l'heure. Bon, mais par exemple, moi, je pense qu'il y aurait des choses extraordinaires à faire en travaillant. Je vais prendre un exemple, puisque je m'y intéresse, en travaillant, par exemple, sur la production des séries télé, et puis d'articuler des travaux à la fois qui s'intéressent à la production symbolique même de ces œuvres et la façon dont ces œuvres ont été produites concrètement sur le terrain. Alors, certainement, mais j'ai jamais lu de travail qui articule ces différentes dimensions. Parce que ça va nécessiter, comme le disaient Rebillard et Maigret en 2015 dans un texte introductif où ils reprenaient la traduction du fameux débat Garnham-Grossberg de 1995, où ils reprenaient justement le fait que ça nécessitait de travailler en équipe, de travailler avec des gens qui avaient diverses formations, et que ça déjà, ben c'est quelque chose qui n'est pas simple aussi de travailler en équipe, surtout qu'en fait, on est encore dans des disciplines, des sciences sociales et humaines qui sont marquées de moins en moins, mais qui sont marquées, et c'est pas forcément négatif également, par le travail de réflexion individuel. Mais donc on pourrait très bien reprendre Falquet et puis... à aborder de façon complètement complémentaire, justement, comment ces rapports de race, de classe et de genre se retrouvent, par exemple, dans un contenu comme dans une production symbolique, comme une série télé. Et articuler ça par rapport, justement, à la façon aussi de faire la série télé elle-même. Bon, je vais peut-être m'arrêter là, mais il y aurait plein de choses qui seraient possibles, de faire, mais il faut du temps. Il faut aussi que les subventions de recherche ne soient pas conçues comme étant qu'à partir du moment où on va être lu par telle ou telle personne, ben, il faut que cette personne ait cette ouverture. De temps en temps, on cherche l'ouverture, puis on nous répond « Ah, mais là, vous êtes ni là-dedans, ni là-dedans. Et puis, vous n'êtes pas bon là-dedans, puis vous n'êtes pas bon là-dedans non plus. Allez, passez votre tour. » Ouais, hein ? Ah, bref.
Alors, on va prendre la...
Avant tout, j'ai une question pour toi. Là, nous sommes bien dans le cadre d'un séminaire.
Oui.
Donc, c'est une rencontre pédagogique. Non, mais je veux dire, on est là pour s'apprendre des choses.
Oui.
Alors, OK, d'accord. C'est... Alors, je te remercie. Ça m'a vraiment stimulé. Et là, j'ai pris plein de notes. Je veux juste vous dire rapidement ce à quoi tu m'as fait penser. Là. Serge, la citation de Serge des années 90. Je crois que c'est en lien avec la première question que tu as posée. Dans les années 90, je suis allé Serge à New York pour le congrès de l'ANCA. Serge m'a révélé qu'il ne connaissait rien de la recherche aux États-Unis. Et je le crois que ça apparaît ici. C'est-à-dire que dans les années 90, là, il y a la third wave dans le féminisme aux États-Unis. C'est majeur dans les travaux. Tout ce qui est la division afro-américaine, elle est très puissante. Il y en a. Il y a toute une réflexion critique, mais pas, encore une fois, pas au Québec et ni dans la francophonie. Il a fallu attendre 20 ans pour qu'il y ait un premier numéro en France sur le genre et les études en communication. C'est 2014-2015, précision-là. Et une autre, tu es revenu sur le disciplinaire. Alors, pour tout le monde, là, parce que ça m'a marqué pendant mon doctorat, mais il y a eu un numéro spécial de la revue Communication Theory en 95-96 qui porte uniquement sur ça. Pourquoi une discipline? Est-ce possible une discipline? Et vous avez toute la position de ceux qui sont contre la disciplinarisation. Et depuis ce temps-là, il n'y a pas eu beaucoup d'autres choses. Et Gramsci, tu m'as fait penser, Jean-Marc Piot, qui est le premier à avoir traduit Gramsci, à avoir travaillé sur lui. Il a fait une traduction, mais pas complète. Et là, ce qu'on a su récemment, c'est que la traduction que nous utilisons depuis 40 ans en français serait une traduction erronée. Et qu'il y a une nouvelle traduction qui est en train de se faire, mais paraît-il qu'elle serait à la limite inacceptable, cette traduction-là. Et pour l'économie politique, ça m'a fait penser à quelque chose par rapport à la Grande-Bretagne dans le débat Grossberg-Murdoch-Golding. L'économie politique, la communication en Angleterre, elle était faite par les professeurs qui travaillaient dans les polytechniques et non pas les universités. Et en travaillant dans une polytechnique et non pas une université, tu as déjà un rapport de pouvoir d'un niveau où tu es reconnu face à d'autres chercheurs qui sont moins reconnus. Et il y avait, tu l'as remarqué, dans l'absence de dialogue entre les chercheurs, c'est une agressivité, une animosité importante qui est le mépris de la position sociale universitaire de l'autre. Et ça nous en apprend beaucoup sur la communication. Mais en tout cas, je voulais juste apporter ces petites clarifications. Là, j'ai adoré ta présentation et je laisse monsieur poser sa question.
Est-ce que tu veux d'abord répondre?
Il n'y en a pas de questions.
Non, je vais peut-être simplement rajouter un élément. En fait, c'est quelque chose, à chaque fois qu'un domaine de recherche se développe, à chaque fois qu'un domaine de recherche se développe, il se développe, me semble-t-il, toujours aussi contre ce qui s'est fait auparavant. C'est une façon de se construire et puis de s'autonomiser par rapport à ce qui s'est fait auparavant. Donc, par exemple, je ne conteste pas du tout qu'il y ait des travaux, par exemple, qui mettent l'accent sur les rapports de genre ou sur les rapports de race. Les rapports de classe ont été pendant très très longtemps les rapports qui étaient les plus travaillés. Je dis simplement qu'il y a un moment où il me semblerait pertinent qu'on essaye d'aller au-delà. Parce que je suis bien d'accord avec la conclusion de Grossberg dans sa réponse à Garnham, quand Grossberg dit à la fin, il dit ben finalement, notre querelle, ça profite avant tout aux autres. Voilà. Et oui. C'est l'une des choses qui me pose problème.
Merci, j'ai pris pas mal de temps à matinée et j'aurais plein de questions et idées, mais peut-être que je fais une proposition plutôt proactive. Peut-être un jour, ceux qui viennent plutôt de l'Europe avec Léna, peut-être Martin aussi, faire une mini histoire un peu de ma expérience à Weimar avec Hitler, Ernst, etc. Donc ils sont partis à Berlin, mais qui maintenant sont beaucoup lus dans le monde francophone et traduits, mais ça fait longtemps que c'est une tradition en Allemagne. Peut-être qu'on pourrait revenir un peu sur ça parce que c'est un peu à la mode actuellement et pourtant peut-être pas de façon si justifiée que ça. Donc c'est peut-être un débat à avoir, même si l'archéologie des médias fait partie de la philosophie des médias. C'est la première faculté des médias en Allemagne et c'était Weimar, c'est la philosophie des médias. Donc il y a peut-être une histoire que moi-même je dois rediscuter dans mon parcours qui est un peu passé à la trappe parce qu'après j'étais en France et en Suisse. Ça sera un plaisir peut-être avec un dialogue, peut-être pas tout de suite mais à l'automne. Mm-hmm. Je peux dire aussi par exemple, mais Inès est traduit en allemand, on l'a lu en première année, on en a écrit juste pour donner un exemple. La différence en Allemagne, c'est principalement parce que les études de journalisme comme c'est beaucoup ce qu'on appelle la publicistique. Puis la partie vraiment milieu contour, philosophie des médias, c'est bien sûr Hitler, mais c'est beaucoup d'autres, beaucoup de femmes aussi. Donc peut-être un jour on pourra traduire, n'est-ce pas, Nina? Voilà. Et puis après aussi, la question des nouveaux, je pense qu'il y a eu un appel à Pam qui est passé. Moi, j'ai essayé de faire une proposition sur The New and Old Media. Je pense que c'est Simon Nathalie de l'Overall, mais qui est beaucoup en lien avec Gabriele Balbi, l'historien des médias en Europe, qui vont essayer de faire l'effort, je pense aussi. Et là, je reviens à un autre point dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'ouverture communicationnelle. Moi, j'essaie d'insister auprès des étudiants qui viennent de l'étranger de lire des travaux dans leur langue et de les présenter, qui ne sont pas traduits. Et ça, ce n'est pas juste un problème en communication et médias, mais partout ailleurs. J'ai une amie collègue très proche qui enfin a obtenu un poste en philo à Paris 8, qui a créé le premier séminaire de philosophie africaine à Paris. C'était tout un débat institutionnel, donc ce n'est pas juste dans notre cas. Je pense que là, il y a des échanges aussi à faire. Puis je sens que je m'emballe là déjà sur plein de trucs. Mais, et peut-être un dernier point, peut-être on peut aussi essayer de réaliser un peu ce qu'on discute, on dit d'un point de vue de la question de la critique qui se, dans chaque contexte universitaire, dans ce culturel est différente. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est que oui, moi je dis clairement que je voudrais bien trouver un mot en français qui dit Medienwissenschaftler. Médiologue, ça ne marche pas en ce temps. De réclamer notre champ, comme on dit, parce que moi, ce qui m'embête, même si je suis très ouverte disciplinairement parlant, je n'ai pas le mot discipline non plus, c'est que les dernières années, ce que j'ai pu observer, parce que je suis beaucoup dans l'écologue, avec sociologues, anthropologues, historiens, beaucoup, c'est que nos collègues d'autres disciplines s'emparent du
Digital Culture et les Digital Humanities, sans vous nous avoir lu, bah, ça a été très bien explicité ce matin. Je pense que là, il y a un vrai travail à faire pour faire reconnaître tous les travaux qui ont été faits, pour ne pas rentrer dans une sorte de soupe de réflexion sur la question du numérique. Moi, j'ai lu des textes de collègues en anthropologie que j'apprécie beaucoup, mais ils n'ont aucune connaissance historique sur nos travaux. Et là, je parle en général. Et je pense que là, peut-être aussi, il y a quelque chose à faire à l'UQAM, puis échanger davantage. Peut-être des gens aussi qui sont arts visuels, médiatiques, tout est pratique, etc. Donc, je fais un petit proposition pour échanger. Puis, voilà. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à réagir, mais pour un peu, voilà, c'est un peu une réflexion sur la matinée, comment on est en ce moment. Ce n'est pas vraiment les questions.
Bon, ça fait réfléchir.
Oui, oui, ben oui. Oui. Peut-être par rapport, je ne sais pas si j'ai été très clair tout à l'heure, disons que j'ai une position un peu ambivalente par rapport à la question des études en communication. D'un côté, je pense que si je revendique ma casquette de chercheur en communication, là, il s'agit très clairement, en fait, de... parce que les rapports de force se sont partout. Hein. Quand je suis arrivé à l'Université d'Ottawa, je me suis très vite rendu compte, le département de communication fait partie et est rattaché à la faculté des arts. C'est très simple. Pour voir les pertinences jugées symboliquement de chaque discipline, il suffisait, entre guillemets, peut-être pas suffisait, mais c'était intéressant d'aller voir quels étaient les bâtiments occupés par tel ou tel département. Fantastique. Quand je suis arrivé à l'école des médias et à la faculté de communication à l'UQAM, j'ai appris combien, en termes de bâtiments, vous voyez, c'est toujours la même question, hein, parce que c'est stratégique dans les universités, en termes de bâtiments, quel était l'espace que la faculté de communication avait par rapport aux autres facultés, et notamment par rapport à la faculté des arts, dont nous partageons le même bâtiment. C'était fabuleux. La faculté des arts était la seule faculté à avoir en moyenne 4% de plus d'espace que les autres. La faculté de communication avait un déficit de 44%. Et je pourrais multiplier les exemples. Il suffit de se promener en France, par exemple. Je l'ai fait aussi à Bordeaux. Il suffit de se promener en France pour voir, par exemple, qu'au sein d'une même université, quels sont les départements qui sont dans des vieux bâtiments au centre-ville et quels sont les départements qui ont des bâtiments provisoires depuis 20 ou 30 ans en banlieue. C'est tout à fait fascinant aussi. Donc j'allais dire, en tant que prof en com, en tant qu'ancien directeur du doctorat en communication, en tant que membre du comité de programme du doctorat en communication depuis 10 ans, évidemment, je vais faire partie des gens qui vont, par exemple, considérer que nos départements devraient accorder la priorité à l'embauche de docteurs en communication. Parce qu'on est dans un cadre de rapport de force par rapport à d'autres disciplines. En revanche, en tant que chercheur critique, eh bien, je pense que la question de la disciplinarisation est un obstacle à la construction de connaissances. Jean-Pierre, tu dis tout à l'heure, oui, mais la communication, dans ce cas-là, elle a la chance de s'inspirer d'approches qui viennent d'ailleurs. Alors, en fait, finalement, ta vision, je ne dis pas que je suis contre du tout, hein, mais ta vision de la communication, c'est plutôt de considérer que finalement... Ben c'est une richesse un peu, cette espèce de... et qu'il faut en profiter. Oui, alors ça voudrait dire, si on suit ton raisonnement, que la communication serait une interdiscipline par excellence. Mais en fait, la question de l'interdisciplinarité, il y a aussi maintenant des sociologues, hein, qui disent, on fait de la sociologie, mais la sociologie, c'est pas suffisant, donc on fait aussi de l'interdisciplinaire, parce qu'on va relier d'autres éléments. Je suis d'accord sur le fond. Avec justement cette question, je pense que la question de l'interdiscipline est une question intéressante, mais on ne peut pas ne pas la penser par rapport à la discipline d'un point de vue institutionnel, si, parce que là, en effet, on est dans le cadre, on le voit en permanence, hein, l'obtention de subventions de recherche, une subvention de recherche qu'a la faculté de communication, ben, j'allais dire, c'est un petit pourcentage de plus par rapport aux autres facultés de l'UQAM. Et comme on est la plus petite faculté, enfin, je ne veux pas développer trop longtemps,
c'est
mais...
C'est ça que je voulais dire, parce qu'en fait, il faut se positionner que les autres disciplines s'emparent de la question du numérique de façon parfois hallucinante, et puis là, il y a
Tu vois, par exemple... Non, mais je pense qu'on a... Je vais prendre deux autres exemples par rapport... Poursuivre ce que tu viens de dire. les questions de relations entre économie et culture, c'est une question qui est élaborée depuis longtemps, par exemple, au sein des travaux en économie poétique. Mais ce sont des travaux que des économistes font aussi de leur côté. Sauf que, très souvent, je trouve que les travaux d'économistes de la culture, eh ben, la dimension spécifique de la production culturelle, qui est d'ordre symbolique, elle n'est jamais traitée. Les technologies de communication vont être beaucoup abordées par nos collègues politologues, par exemple. Mais très souvent, pas tous, mais très souvent, les collègues politologues qui se saisissent des questions de technologies de communication et qui la abordent dans le cadre dans quelle mesure ça participe à la démocratie, etc., etc., au renouveau politique, très, très souvent, ils abordent ça d'un point de vue relativement, j'allais dire, le terme m'échappe, mais les technologies sont instrumentalisées, en fait, dans les travaux.
Il y en a anthropomorphisme.
Mais alors, et je pense justement qu'il se passe des choses depuis 20, 30 ans, 40 ans dans les études en communication qui fait qu'on a un regard sur les phénomènes et processus communicationnels qui, à mon avis, devient dans une certaine mesure spécifique, mais qui n'est pas reconnu, on va dire en tout cas. Et qui est peut-être encore lié au fait que nous continuons, je ne dis pas que je suis contre, hein, que nous continuons à embaucher des collègues qui viennent d'autres disciplines, alors qu'en fait, en sciences politiques, ça ne viendrait jamais, hein, jusqu'à preuve du contraire, qu'on embauche quelqu'un dans d'autres, venant d'autres disciplines. Je pense que là, il y a un enjeu. Ce n'est pas du tout pour nous fermer, mais c'est pour dire que tout est une question d'équilibre. Mais voilà, c'est ça. Tout est une question d'équilibre. Dans un département, à mon avis, c'est un vrai problème si on embauche 90% des gens qui ne sont pas diplômés en communication. Voilà, c'est une question d'équilibre. Il ne s'agit pas d'exclure du tout, je pense.
Il y a une question là, une question de Jean-Pierre, une question de Michel. Et...
moi, je vais appuyer sur un point très précis, mais je vais essayer d'appuyer assez fort.
Vas-y.
Ta question, c'est la question numéro 2, à propos de l'amnésie. C'est-à-dire, à chaque média, on doit réinventer du théorie, etc. Tu t'inspires de Armand Machin, c'est ça, ou Christian?
Armand, je pense que sa réflexion sur ce point-là est vraiment. Enfin, j'ai beaucoup de problèmes avec sa réflexion. Autant aujourd'hui, ça se fait, il y a des gens qui vraiment réfléchissent à qu'est-ce que les anciens médias peuvent. Enfin, qu'est-ce que la compréhension des anciens médias, même des médias imaginaires, des médias. Qu'est-ce que cette compréhension peut nous apporter dans la lecture des médias d'aujourd'hui? Il y a des gens qui aujourd'hui, et même si on prend les années 80, enfin là il est plus 87, ils écrivent en 87, même à cette date-là, il y a déjà des gens dans le monde anglophone qui ont ce genre de réflexion. Et donc je pense que vraiment il faut pas leur faire confiance là. Peut-être que c'est dû à l'isolationnisme français, c'est dû à la langue, etc. En Allemagne, justement, Katharina citait Hitler et toutes ces réflexions. C'est toujours des réflexions qui sont à, disons, avoir une pensée diachronique.
Oui, alors, attends, la position de 87, c'est pas sur la question. Non, la position de 87, c'est sur l'articulation micro-macro ou sur le fait que le macro a disparu au profit du micro. Bon, par ailleurs, je suis pas un spécialiste d'Armand Matlard. Michel connaît très bien Armand, il pourrait mieux répondre que moi. Je pense pas qu'Armand ait une vision franco-française. S'il y a un chercheur francophone, je pense, qui a véritablement une vision internationale de la communication, c'est bien Matlard. Ne serait-ce que parce qu'il a vécu une bonne partie de sa vie en Amérique latine.
Comment est-ce que lui qui rate l'entièreté du champ Parce qu'en plus, là, ce serait facile d'aller voir du côté des études cinématographiques, etc. Là, il y a des gens qui réfléchissent à ça depuis belle lurette. C'est à peu près même consubstantiel au champ. Donc, il y a toujours pensé des médias dans des séries, etc. Mais même à l'intérieur des études en communication, là, je regardais un livre qui est écrit par Caroline Marvin en 89. C'est dans une série qui s'appelle Thinking Communication, qui elle réfléchit déjà à ça. The newness of new media, là, comment est-ce qu'on peut aborder la nouveauté des nouveaux médias. Donc, là, il y a quelque chose qui cache un petit peu dans le sens. Je ne sais pas comment ça s'explique et je ne sais pas exactement comment toi tu articules ta réflexion à propos de cette amnésie.
Il y a Michel qui veut prendre la parole.
C'est très simple. Je pense qu'il faut se référer à ce que Matlard entend par histoire. Et puis à ce moment-là, il faut se référer à Braudel, à Fernand Braudel, dont il tire finalement cette conception de l'histoire. Et c'est une histoire qui, lui-même, Braudel, voyait comme une interdiscipline et qui, finalement, travaille sur la longue durée, etc. Alors, donc, oui, l'aspect diachronique, mais l'aspect diachronique n'est pas l'aspect historique au sens que l'entend Braudel. Parce que Braudel, lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est en fait, l'histoire est une sorte de... catalyse, en fait, tous les aspects politiques, développement technologique, etc. Donc, au moment où, finalement, tout est produit historique, y compris nous, y compris technologie, y compris les politiques publiques qu'on a prises, etc. Donc, effectivement, c'est déjà la pensée de Braudel, c'est une pensée dialectique sur les temporalités, sur... et c'est de, donc, effectivement, le déni de l'histoire tel qu'on l'entend ici, que l'entend ici, Matelard, mais il faut mettre ce que Matelard entend par histoire, ça, c'est simplement.
Question, parce que là, le temps est vraiment limité. Alors, il y avait Jean-Pierre, Michel.
Non, mais attends, je peux dire une insiste par rapport à ce qu'a dit Martin, parce que. Et Martin, j'aurais tendance à dire qu'il serait super intéressant d'étudier aussi les études cinématographiques et de les positionner par rapport aux études en communication.
Oui, tout à fait.
Parce qu'un certain nombre de collègues qui sont en études cinématographiques vont refuser d'être considérés comme étant en communication, alors que d'un autre point de vue, les études en cinéma, c'est des études en com, et devraient être incluses. Et toi, les rapports non plus ne sont pas si simples non plus entre communication et cinéma, de ce point de vue-là. Mais ça, c'est aussi, c'est lié aussi au rapport symbolique, par exemple, entre cinéma, télévision et compagnie. Hein. Ce qui distingue la télé, c'est le téléfilm de la série télé. Vous voyez, quand on est autres, de la forme culturelle du téléfilm, la série. Et du Québec de la France, par exemple.
Ah, c'est un arrache de téléfilm. Écoute, merci Eric, moi j'ai beaucoup aimé ta présentation. Seulement que c'est pas très sympathique que tu mettes 40 slides et qu'on ne puisse pas les prendre le temps de les lire. J'espère que ça sera disponible.
Alors, je vous les enverrai, je vous en
prie. Non, mais ça sera disponible parce que moi, il y a plein de choses que je voulais noter, là, très intéressantes, puis des auteurs même que je voudrais aller lire, mais ça me prend la référence, j'ai pu le noter comme ça. C'est juste un préambule. Bon, j'ai plusieurs points, mais je vais essayer de les ramasser. D'abord, ta dialectique des deux chapeaux, là. Ton chapeau disciplinaire, puis après ça, ton chapeau critique interdisciplinaire, je te fais remarquer que c'est une distinction qui est interne à l'institution. Tu pourras en avoir une autre par-dessus qui va être l'articulation dialectique entre l'université et la société québécoise et la société mondiale, whatever. Hein? Okay. Parce que moi, je te comprends tout à fait. Il a fallu, comme directeur de la maîtrise, quand on a créé le multimédia, il a fallu aller que j'aille fumer le calumet de paix avec la directrice des arts, parce qu'elle ne voulait pas que l'on utilise le mot création dans notre programme. On parlait de création multimédia, création interactive. Bon, alors, ça, même de ces irritants-là, il faut, d'une certaine manière, regarder un peu plus loin. Je ne dis pas ça de façon méprisante, mais je dis ça qu'au fond, tout ce qui est dialectique ou distinction à l'intérieur de l'université ou de l'institution universitaire se situe, il faut bien le constater, à l'intérieur de l'institution universitaire. Il y a beaucoup d'indices de ce que tu dis qui me donnent à penser que tu te définis surtout en fonction de ça, ce qui est très bien, parce que tu fais ton travail. Moi, j'admire tout ce que tu fais, puis tu travailles au développement de programmes avec toutes sortes de critères très intéressants. Maintenant, l'articulation université-société est très importante. Parce que toi, tu arrives à la fin avec des suggestions, ça pourrait se faire, les classes, les races, etc., les gens, tout ça. Bien, je te dirais, ça s'est déjà fait. Hein? Je disais à un autre tout à l'heure que des étudiants ont plus que tu toi-même que les étudiants jouent un rôle important dans l'évolution des pensées critiques de leurs professeurs. Il y a des étudiants qui, à l'époque, je pense que Michel était là-dedans, ils avaient fait à partir d'un cours d'analyse critique d'information ou des informations culturelles, ils avaient fait un document vidéo à partir du téléroman.
Ah, c'est moi qui ai fait.
C'est toi avec Michel Van der Waal. Bon, alors, Ça s'appelait « Ceci est un message de l'idéologie dominante ». C'était une déconstruction du téléroman.
Vous avez eu ça.
Tant pis pour vous. Mais donc, tu vois, il y a des choses qui se sont faites et il y a des choses qui continuent à se faire. Il y a quelqu'un qui a parlé des mouvements sociaux. Moi, je vous dirai, plus tard, les mouvements sociaux sont au quatrième étage ici, au pavillon Judith Jasmin. Nous, ça fait 40 ans, cette année, on ramasse des affiches produites par les mouvements sociaux au Québec et ailleurs dans le monde. Donc, les mouvements sociaux, ils peuvent venir à l'université aussi, puis ils peuvent devenir des objets dialectiques d'études et d'interventions. Alors ça, c'est très bon. Maintenant, il y a d'autres organismes que les sociétés savantes. Il y a UDC, par exemple, Union for Democratic Communication. Ils se définissent comme des universitaires et des activistes. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, il essaye justement d'appliquer la pensée critique à l'articulation université-société. Bon, ça, c'est tout. Ça, à mon avis, c'est quelque chose d'absolument essentiel parce qu'on risque de s'enfermer dans nos disciplines à plus forte raison que dans un contexte de crise, d'austérité, chaque discipline va lutter contre toutes les autres disciplines pour avoir des subventions, pour avoir des bureaux, pour avoir des édifices, des espaces, etc. Ça rejoint beaucoup ce que tu as dit. Mais bon, c'est des nuances. Maintenant, j'ai apprécié qu'au début, tu dises qu'au fond, il y a une dialectique nécessaire dans une perspective critique entre ce qu'on pourrait appeler le travail physique et le travail symbolique. Okay? C'est une autre façon, mettons, peut-être malhabile, de nommer le couple infra et suprastructure. Donc ça, je suis très content qu'il y ait ça parce que c'est un os depuis longtemps. C'est un os depuis longtemps parce que ceux qui travaillaient dans la perspective cultural studies, ils trouvaient indigeste la production de l'économie politique telle que pratiquée par certains. Hein? Puis ceux qui faisaient l'économie politique, ils regardaient de bien haut ceux qui faisaient de l'analyse culturelle. Là, hein? Jusqu'au moment où les cultural studies ont pris une certaine ampleur. Et justement, Horkheimer, Adorno, d'accord, mais il y en a aussi d'autres comme Oscar Neck, qui fait une distinction fondamentale en regard de la question de l'aliénation et de l'émancipation, c'est sa définition du travail. Et ça, c'est dans son livre, dans l'espace public oppositionnel. Il parle de la distinction entre le travail mort de l'aliénation et le travail vivant de l'émancipation. Hein? Donc, il y a tout ce qu'il faut dans ce champ-là, si je puis dire, mais il faut aller aussi à l'extérieur, il faut aller vers des gens comme Gramsci, Foucault, Castoriadis, etc. Ce ne sont pas des communicologues, comme tu disais, les médialogues ou médiastes. Les médiastes. Donc, moi, je maintiens la position qu'il faut tout en se référant à un corpus, puis à une histoire, puis à une genèse de la pensée critique dans notre champ d'étude, mais en étant totalement ouvert. Je ne veux pas dire par là qu'on va se donner à tout un chacun. Il faut maintenir un peu notre noyau, là, mais aller chercher des outils de compréhension ailleurs. Parce que Foucault, il n'est pas en communication. Il est en quoi? Il est comme Brodel. Brodel est en histoire. T'sais, il travaille sur les longues durées, puis il travaille sur des questions éminemment pertinentes pour nous. Ça va de des institutions au biopouvoir. OK, c'est fini. Bon. Mais en tout cas, c'était pas une question vraiment, mais c'était pour amener un éclairage là aussi.
Mais rien n'est simple. Hein. Par exemple, le séminaire m'a donné l'occasion, enfin ce séminaire-là, puis un autre séminaire il y a 10 jours, m'ont donné l'occasion, par exemple, de reprendre la pensée de Lucas Dufour sur relation entre infrastructure et superstructure. Et lui, par exemple, il estime que les positions à la fois de l'école de Francfort et de Gramsci enterrent l'infrastructure complètement. Et puis j'ai échangé avec un collègue en France, et puis qui me dit en fait j'en suis pas si sûr et moi-même en relisant Horkheimer, Adorno, Benjamin je suis pas sûr qu'Adorno, Horkheimer et Benjamin aient tous la même position par rapport à cette question-là. Donc, je pense que c'est très, très... qu'il est aussi question en permanence d'interprétation des textes et de la façon dont nous interprétons les textes.
Michel, très rapidement, deux points. Vous savez que Pablo Picasso, un jour, a dit « La métaphore ne berne pas l'œil, mais l'esprit ». Or, moi, je pense que la fameuse métaphore de l'infra-superstructure, c'est comme l'édifice, etc., qu'on découpe. Moi, je pense que, de toute manière, c'est l'infrastructure, la superstructure, ce n'est qu'une même chose. En fait, il n'y a pas de c'est la matérialité de l'idéologie et ou l'idéologie de la matérialité. C'est les deux, ça, c'est dialectiquement intégré. Hein. En fait, c'est là qu'on parle, quand on parle de résultats historiques, si on dit, par exemple, on prend juste la télévision telle qu'on la voit maintenant, c'est plein de choses. C'est de la technologie, c'est éventuellement des politiques publiques qui ont permis que, se développe tel type ou tel type de trucs. Ensuite, c'est les rapports de force, éventuellement financiers, etc., de l'État, les mouvements sociaux, qui ont fait des pressions pour qu'on ait un résultat. Et c'est les rapports de force, et éventuellement les mouvements sociaux sont là-dedans. Si on a une télévision, un service public, c'est parce qu'il y a eu des mouvements sociaux qui ont forcé l'État à en adopter. Donc, moi, je pense que ça, j'aurais tendance à penser que je pense de plus en plus de cette manière-là. Et je crois que en relisant les 1000 pages à peu près d'anthologie en trois tomes qu'on a fait, Fabien et moi, des textes de Matelard en 70-86, c'est exactement ça. En fait, Matelard n'a jamais détaché l'un et l'autre. Et c'est la première réaction, justement, au marxisme orthodoxe, c'est-à-dire de penser l'articulation entre ce qu'on dit, infrastructure, superstructure, mais j'aime plus ou moins l'utiliser. Deuxièmement, il y a, quand tu parles qu'en communication, on est plus avec des grilles d'analyse plutôt que des théories. Moi, ma première réaction, c'est qu'on a tendance beaucoup à instrumentaliser les théories de ce point de vue-là. Et donc, ça rejoint un petit peu à ce que, lorsque Matelard parle de communication, il en parle comme d'une interdiscipline, en sachant très bien qu'il faut quand même avoir un certain bagage d'un point de vue théorique pour appréhender les réalités. Et je suis tout à fait d'accord à cette articulation. Je pense que, de toute manière, de tronquer un petit peu Rio, que je connais assez bien, c'est sorti de son essai sur la sociologie critique, là. Justement, c'est la dialectique entre la pratique et la théorie, c'est-à-dire que comment la réalité nourrit la théorie... Et on rejoint l'infrastructure, c'est toujours cette dialectique-là entre le matériel et l'immatériel, entre la pratique. En fait, c'est toujours ce même type d'articulation. Je terminerai en disant, il y a tout un pas de la littérature latino-américaine et de la réalité latino-américaine qu'on oublie ici, et ici, pour dire qu'il y a encore de l'espoir, ma métaphore à moi, c'est le film n'est pas terminé. Hein, donc, tant et aussi longtemps que des images sur l'écran, on s'agite. dans le monde latino-américain, les études en communication, certains chercheurs en communication sont très, très proches, notamment les Brésiliens, des mouvements sociaux. Et c'est pour ça. Et il y a vraiment une articulation entre, par exemple, les alternatives, même les politiques. On a un collègue qui est rendu pas à Queens, mais à York, Evan Light, qui a travaillé en Uruguay. Et évidemment, les mouvements sociaux, l'importance des mouvements sociaux dans la création de politiques publiques, et les intellectuels, les professeurs en communication, hein, qui sont des gens qui ne sont pas seulement des théoriciens, mais aussi des praticiens, participent aussi de ces mouvements-là. Donc, tout ça pour dire que si on éclate un petit peu la sphère occidentalo-américano-européenne, je pense qu'on va voir beaucoup de choses, et ça, je n'ai même pas parlé de l'Asie. Voilà.
J'échange avec un collègue brésilien qui va venir au colloque qu'on organise au mois de mai, au début mai, Edgar Robussas. Et puis, Edgar me transmet son CV. Et puis, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Il avait traduit ça en français. Et en fait, les trois tâches qu'ils ont, pour nous, les trois tâches qu'on a, c'est enseignement, recherche et service à la collectivité. Eux, enseignement, recherche et service envers la communauté. C'est très, très différent. Parce que et je lui disais, mais c'est quoi tes services à la communauté? Il dit, ben en fait, on doit avoir toute une partie de notre travail, chaque semaine, qui est liée aux communautés, par exemple un alphabet, et qu'on doit travailler dans le milieu social. Voilà. Et que c'est tout à fait normal qu'un prof d'université passe une partie de sa semaine dans les favelas, par exemple, ou dans d'autres milieux sociaux au Brésil.
Mexique, ça même.
Voilà. Je trouve ça très, très intéressant.
Dernière question, donc, de François.
Oh, ben, rapidement, là, c'est que ta réflexion 4 est celle qui m'intéresse le plus en ce moment. C'est-à-dire que ça recoupe mes réflexions, mes champs d'intérêt et la question du modèle constitutif. Et là, je crois que ça me permet de réaliser ce pourquoi je m'intéresse beaucoup à Zimmel maintenant, et je comprends un peu mieux le retour de Zimmel aussi, à l'intérieur de cette force-là de la communication constitutive de la société. Et là, vraiment, j'ai trouvé ça fort intéressant. Ça me permet de pouvoir faire un petit bout. Je te remercie.
Bon. Merci à tous. Voilà qui marque la fin de ce séminaire.
Merci à vous.
D'avoir été.